Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Le château est à moitié en ruine, en très mauvais état. Seuls les meubles d'époque peuvent servir et rapporter. Et il lui montre ses terrains qui sont très importants. Il lui dit, je vous inviterai chez moi, vous verrez. Elle lui fait, j'y compte bien. Comme elle tient à ce cousin qui lui tombe du ciel et qui est si riche. Et comme elle est forte et très futée, et lui n'est pas très futé, elle le soigne, le nourrit bien, le chouchoute. Lui se laisse faire, il fait même le bébé, orphelin riche. 10 minutes par la vie. Elle se dit que lui est riche comme très juste, mais pas très futé. Dehors, il saute, il court comme un enfant, il cueille des fleurs, joue avec les bêtes, elle sourit et se dit que c'est un grand bébé. Il appelle Tatine Julie. Elle, mon petit poussin. Cette femme qui toute sa vie a le corps dur, a eu le corps dur comme de la pierre, qu'un seul but dans sa vie, amasser le plus de biens possible, se met pour la première fois de sa vie à avoir de l'affection pour quelqu'un. Peut-être parce que François fait enfant et qu'il se comporte comme un gosse. Il aime les gâteries et lui fait des gâteaux. Elle, qui n'a jamais rien fait pour personne, fait pour plaire à quelqu'un, pour lui. Il est vrai que peut-être l'âge, la solitude joue dans son comportement. Les jours passent. François se prélasse et joue les bébés. Le soir, après le repas, il joue sur un vieux piano. Des airs de danse pour la distraire. Et même la faire danser. Elle rit comme une folle. Au bout d'un moment, François fait partie de son univers et oublie même qu'il n'est qu'un invité et qu'il est venu comme ça et ne sait rien de lui. Dans leur promenade, il lui parle souvent de ses terres, du Brésil, des milliers de vaches, des puits de pétrole, etc. et le tout environné de vastes paysages, de grandes maisons. Lui seul au milieu de tout ça. Il lui dit, j'ai vécu seul. Mon père n'avait pas le temps de s'occuper de moi. Toujours pris. Et moi, je manquais d'affection. Maintenant, je vous ai. Elle est fière qu'il lui dise ça. Et lui dit qu'elle devrait se coiffer autrement. Vous avez les traits du visage fin, mais votre coiffure ne vous met pas. Ne vous va pas du tout. Venez, allons dans votre chambre. Ils sont entrés au château, allés dans la chambre. Là, il a fait asseoir à sa coiffeuse. Elle rit comme une petite fille. Elle, qui n'a jamais eu d'amis, qui n'a jamais passé à son âge, joue comme une folle. Elle lui dit, je danse, tu me coiffes? Il lui dit, tu es ma poupée? Elle rit. Une fois coiffée, il lui fait mettre une robe noire, triste et stricte. Elle est vieille au moins de 20 ans. Le temps passe, ils semblent heureux tous les deux, en dehors du monde. Un soir, ils sont assis au coin du feu, au salon, et lui dit, ce qui serait bien, c'est que l'on officialise notre union. Si je peux dire comme ça, et il demande,
je ne vois pas.
Il lui dit, tu n'es pas vraiment ma tante, mais nous pourrions officialiser. Nous unir, puisque tu n'as pas pu le faire avec mon oncle. Elle est très émue. Il dit, bien, si je vous demandais de m'unir à vous, vous pourriez m'adopter, comme cela nous serions unis officiellement. Elle lui dit, mais oui, je veux bien. Il l'embrasse et lui dit, ma petite Julie. Et il décide de faire comme ça. Il lui dit, c'est moi qui m'occupe de tout. Elle est très heureuse. Elle a un petit François à elle, un peu comme un fils, et qui est en plus très riche. Il lui dit, votre prévenir, c'est que j'ai la santé fragile. Enfin, s'il m'arrivait quelque chose, tu serais obligé c'est d'aller au Brésil, t'occuper de mes affaires. Et lui fait, ne te fais pas de soucis. Et puis, tu es très jeune, non? Les jours passent. Elle ne fait pas attention aux formalités qu'il prépare. Ne voit pas la nationalité ni son domicile. Elle est toute excitée. Trop excitée pour voir, pour s'en occuper. Et puis un jour, ils sont convoqués à la mairie pour signer les papiers d'adoption. Elle signe, très émue, sans lire les papiers. Lui les garde. Désormais, il peut hériter d'elle si elle meurt avant lui. Officiellement, il est son fils. Elle est très heureuse. Ils font de longues promenades. Un après-midi, ils vont sortir pour aller se promener dans le parc. Sur le palier du premier, d'un coup brusque et rapide, il la pousse par-dessus la rambarde de bois. La rampe a cédé et est tombée à terre. Elle s'est aplatie au sol, ne bouge pas sur le dos, du sang coule dessous elle. Descend en vitesse. La touche. Voit. Son visage fixe et grimaçant, le corps qui ne bouge plus. Elle est morte. Vite, il va téléphoner à la gendarmerie. Une heure plus tard, les gendarmes viennent avec une ambulance, constatent le décès. Interrogatoire, François leur dit qu'elle s'était appuyée à la rampe, que la rampe a cédé, alors elle est tombée. Gendarmes voient que le bois était très usé, accident. Il donne l'autorisation pour l'enterrement. L'enterrement. Maintenant, il est le seul héritier. Des jours passent, puis il retourne à Paris, voir les Forts en Blanc pour leur vendre le terrain qui servira à la maison de retraite. Personne ne regrette la Julie, qui d'ailleurs avait fait la même chose pour hériter du dit tilleul. elle n'était pas aimée, aimée de personne. Une bonne qui hérite de ses patrons, c'est mal vu. Quant au jeune homme, à l'héritier, les gens l'ont à peine connu, à peine vu. Et puis, comme c'était un cousin des Dutilleul, donc, que le domaine lui revienne, ça rentre dans la famille, c'est bien. Ils n'ont pas été surpris qu'il ait vendu pour une maison de retraite, puisque peut-être que ce sera bon pour le village et les affaires. Les jours passent. Un soir, que François est chez Judith dans son salon, est allé chercher à la cuisine à boire et lui fait les 100 pas. Tout d'un coup, il voit au-dessus d'un confiturier quelque chose de rouge. Un tissu ou autre. Cela l'intrigue. Il décide de voir ce que c'est. Il prend une chaise et monte pour prendre cette chose. C'est une casquette. Une casquette toute triste. Toute triste. Ça lui donne le cafard. Ça lui rappelle le petit Serge. Il se souvenait plus de lui. Judith revient avec une bouteille de champagne dans un seau à glace. Elle lui demande « Qu'est-ce que tu fais sur cette chaise ?» Il lui dit en descendant j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose au-dessus de ton confiturier. Alors, j'ai voulu voir ce que c'était. Il lui montre et lui dit, il me semble que c'est la casquette de Serge, non? Elle pose le seau à glace sur la table basse. Et s'assoit en face. Lui va s'asseoir en face d'elle avec la casquette à la main. Demande, elle est à lui? Elle lui dit, oui, il a dû jouer avec en la lançant en l'air comme c'était son habitude. Elle a dû se poser sur le meuble. Il regarde la casquette, un peu poussiéreuse. Il semble triste. Avoir l'air d'être délaissé. Elle sert le champagne. Au fait, pourquoi ce champagne? C'est pour fêter ma mutation. Je suis monté d'un grade. Et maintenant, je suis au service relations humaines, directrice des relations humaines. Il lui dit, félicitations, tu en as fait du chemin de simple dactylo à directrice des relations humaines. Ils boivent une gorgée. Il lui dit, je suis heureux pour toi. Elle lui fait, toi aussi, t'as bien réussi. Tes affaires marchent bien. François lui dit, peut-être, mais un rien peut tout faire basculer. Il tourne la casquette dans ses mains. Il a la sensation de toucher quelque chose de tendre, de fragile. Il ne sait pas. et lui demande « Serge, tu as des nouvelles ?» Elle lui fait « C'est vrai, tu ne sais pas, durant une de tes absences, il y a quelque temps de ça, il s'est passé une chose horrible. Serge a tué son père et il s'est tué ou a été tué. Il n'a pas retrouvé son corps. Ça a été horrible cette histoire. » François lui demande « Et pourquoi il a tué son père ?» Elle lui dit « On ne sait pas au juste. Serge n'a jamais supporté la discipline. Il voulait dépendre de personne. Son père l'aimait, mais voulait qu'il ait une vie plus sérieuse. » François lui dit « Pauvre Serge. » Elle lui dit « Oui, pauvre Serge, je ne voulais pas. » Lui demande « Tu ne voulais pas quoi ?» Elle lui dit « Je voulais dire que je ne voulais pas que ça se termine comme ça, qu'il termine comme ça. » Il se dit qu'elle a dû participer à ce drame. N'a-t-elle pas été la maîtresse du père ? Non. Une soirée chez les Franc-Blancs, il est allé avec Judith. La Judith l'a laissé pour aller parler à ses copines. Il va venir à lui, Gilles. Salut, salut. Gilles lui demande, comment vont tes affaires? Ça va, merci. Gilles lui sourit, lui dit.
Ça veut dire quoi?
Toi, tu es comme moi. Nous sommes de la même race. Prêt à tout pour arriver à quelque chose. François se dit qu'il a raison.
Étant donné qu'on ne se verra pas avant 3 mois, tu pourrais peut-être danser avec moi.
Ne sois pas tellement sentimental, tu reviens à Noël, n'est-ce pas?
Mais je veux pas danser.
Ils voient arriver vers eux Harold, tout excité. Il dit à François, « Bonsoir François, comment allez-vous? Très bien, et vous ?» Moi je vais très bien.
Tu viens, Eddie, on va faire.
Gilles dit, bon, eh ben je m'en vais vous laisser. Harold dit, vous pouvez rester, ou vous aussi? Non, merci. Je n'aime pas Sérénade à 3. Harold lui dit. Regardez-le, il est jaloux, ce petit coquin. Gilles lui dit, moi, je suis un passionné. Ou j'ai tout, ou je n'ai rien. Harold lui dit, avec vous, ce sera facilement tout. Gilles rit. François dit, bon ben c'est moi qui dois vous laisser. Je suis de trop. Gilles lui dit, non, pas du tout. C'est moi qui m'en vais. Et il les quitte. Harold dit, il est charmant celui-là. François lui dit, oui, mais... Pardonnez-moi, je vais le retrouver. À moins que vous vouliez aller le voir, vous. Non, pas du tout. C'est vous que je viens voir, justement. Voilà, j'ai décidé c'est de faire une grande pub et d'aller sur les lieux où a disparu le 6e continent. Vous savez, ce continent construit de toutes pièces par les jeunes tout. Qui a disparu dans les flots. François lui dit, oui, et alors? Eh bien, je vais y aller voir s'il n'y reste pas quelque chose sous l'eau. François lui demande, et comment allez-vous faire? Harold lui répond, eh bien, nous pourrons, c'est amener des sous-marins de poche genre Cousteau et plonger. Pourront les mettre dans des bateaux spéciaux avec ses sous-marins dessus. J'ai l'idée, c'est que l'on pourrait en parler. Ça ferait beaucoup de pubs. On pourrait faire venir des personnalités telles que le célèbre journaliste Pierre Masseroussillon, les Francs Blancs, Gilbert, bien entendu, Monsieur de Janjou, Julien, Sève, Judith, bien sûr, quelques jolies femmes et beaux garçons, dont vous, bien entendu, vous viendrez, n'est-ce pas? Ça vous fera une pub superbe. Judith vient à eux et leur demande, vous parlez de quoi? Harold lui dit, je vais inviter François à mon opération. Elle lui dit, mais bien sûr, François va venir avec nous, ça va lui faire une pub du tonnerre. François lui dit, bien je veux bien, mais nous partons quand? Harold lui dit, dans un mois. Et tout le monde commence à se préparer pour cette aventure. Tout le monde est invité à aller sur les lieux où le sixième continent a disparu. Tout le monde se souvient de ce continent construit entièrement par les hommes et qui a disparu dans les flots et a fait des millions de morts. On n'a plus rien retrouvé. Voir Imami est l'élu. Imami, l'élu, un mois plus tard, toute l'équipe, les invités de l'expédition partent en train pour aller jusqu'au Havre. Un train spécial. François est entré dans un compartiment et s'assoit. Judith ne peut rester près de lui. Elle est à côté d'Harold qui est à côté de la direction et de Gilbert. Le compartiment où il est vide. Lorsque la porte s'ouvre, apparaît Monsieur de Janjou, tous les deux gênés et émus de se retrouver. François se lève.
Bonjour monsieur. Monsieur de Janjou lui fait. Bonjour François. Quelle joie de te revoir enfin. J'espère que je ne te gêne pas.
Non, pas du tout. Asseyez-vous. Il s'assoit en face de François, qui se rassoit lui aussi.
Jean-Jules lui dit, alors, vous aussi, vous êtes du voyage?
Oui, on m'a invité.
Moi aussi. Et qu'est-ce que vous devenez depuis tout ce temps?
François lui dit, pas grand-chose, monsieur. Je suis dans les affaires. François est gêné, il a honte, car il sait que M. de Janjou l'aime et qu'il aime les gens honnêtes. De Janjou lui dit,
je n'aime pas tellement le monde des affaires, mais il en faut bien, n'est-ce pas?
Oui, monsieur.
M. de Janjou lui dit, moi je pense. Pour moi, la vie est toujours aussi monotone. Je pense beaucoup à vous. Et vous, vous avez des amours?
François lui dit, oh, pas vraiment. On me prend pour quelqu'un de pas très sérieux. Et c'est un peu lassant d'être toujours Monsieur Bébé. Monsieur George lui dit.
Oui, nous voilà partis.
Il est heureux près d'être près de son petit François. Il lui dit,
je me souviendrai toujours de la première fois où je vous ai vu. Vous vous souvenez?
François lui dit,
oui. On vit des souvenirs. Voyez-vous, ce voyage, pour moi, est un voyage de souvenirs. Il y a beaucoup de monde que j'ai connu et qui sont morts là-bas. Ça a été une catastrophe terrible. Les Dieppe, les Hautebords, Charles. Ah, oh, Charles, un être exquis. Je l'ai connu lorsqu'il était très jeune, disons comme vous. C'est la personne la plus délicieuse que j'ai jamais aimée. Pauvre Charles, il n'a pas eu de chance en amour, lui non plus. Il soupire et dit,
dans la vie, on perd de nombreuses personnes. À la fin de sa vie, on la passe dans un champ de cimetière. Et les Hautebeurs, quelle classe! Des gens qui savaient recevoir leur soirée délicieuse. Ils avaient une villa de toute beauté au fond d'un grand parc. On se serait cru en dehors du monde. D'ailleurs, c'est ce qu'ils voulaient être, en dehors du monde.
François lui dit, vous qui avez connu tous ces gens, vous devez me trouver bien quelconque.
Monsieur Georges lui dit, surtout pas mon cher ami, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel.
François lui demande en souriant,
et en quoi?
Monsieur Georges lui dit,
en ce que vous êtes, en tout. Merci.
Oui, le trajet se passe agréablement. C'est long et des hôtesses passent et leur apportent des boissons, des amuse-gueules, même du champagne et tout ce qu'ils ont besoin. Et puis, bien entendu, pour les repas, il y a le wagon-restaurant. Tout est bien fourni. C'est des produits de luxe ponctois. Ils arrivent au Havre, en début de soirée. Il y a la police, les gendarmes, la municipalité, la préfecture et même des membres du gouvernement de plusieurs pays. Parce que les victimes du sixième continent sont de plusieurs pays. Ils sortent du train, tapis rouge, on les mène dans un immense hall. Prévu pour eux. C'est une grande tente qui peut avoir 2000 personnes. Il y a une estrade, fanfare, drapeau, buffet. Monsieur de Janjou dit à François,
je me retire un peu. Je n'aime pas ce côté province.
François lui dit, moi aussi. Ils vont se mettre vers le fond de la salle, vers l'estrade du groupe avec le PDG, Gilbert, Judith, le vice-président Harold et même Mademoiselle Lapin. Et oui, Mademoiselle Lapin. Et aussi du voyage. Les journalistes de la ville, la préfecture, le gouvernement et un groupe scientifique. Les journalistes, dont le célèbre journaliste Pierre-Max Roussillon, se trouvent en bas de l'estrade. On commence des discours. À Thiers Larigot, on félicite Harold pour cette initiative. On parle des chers disparus. Après, il y a un buffet. Après, tout le monde est mené en voiture, une fois qu'ils ont mangé, pour embarquer.
dans le bateau. Le bateau est immense, bien entendu, parce qu'il faut qu'il puisse transporter des sous-marins de poche, des hélicoptères. Au fur et à mesure que les gens montent, les passagers sont conduits à leur cabine. Bien entendu, à l'étage du commandant se trouvent Harold, Gilbert, Judith, Julien et des scientifiques. Puis à l'étage en dessous, les journalistes, dont Pierre Maris Roussillon. Puis les invités comme François et Monsieur de Janjou. Les cabines sont grandes, spacieuses, comme des chambres d'hôtel et même plus confortable. Il y a une immense salle à manger pour tout le monde, pour ne pas faire de catégorie, et meublée Louis XV. Il y a aussi une salle de spectacle, salle de bal, salle de sport, piscine, massage, bibliothèque, cinéma, coiffeur, médecin, magasin de toutes sortes. Et pour des petites choses que l'on aurait oubliées, comme des tampons pour les femmes, des préservatifs, etc. Sans compter des lunettes de soleil et tout. Lendemain matin, la vie commence sur le bateau. Il a quitté le port et vogue vers le large. La croisière se passe agréablement. François revoit Judith et font leur jeu favori. Parle aussi à Pierre Max, qui connaît tout le monde. Mais il est inquiet parce qu'il a peur du mal de mer. Harold est très occupé et agité. À organiser tout ça. Il faut que tout soit parfait.
nous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.